RCF. Vous avez un nouveau message, Madeleine Vatel.
Le livre du Cantique des Cantiques est une succession de poèmes qui raconte l'attirance d'un homme et d'une femme qui se cherchent, se désirent, mais finissent-ils par se trouver ? C'est ce que nous dira Sylvain Gasser. Bonjour.
Bonjour Madeleine.
Vous êtes frère assomptionniste, éditeur de podcast à la revue Prions en Église et notamment pour le podcast La Bible à l'oreille pour lequel vous avez travaillé sur le Cantique des Cantiques. Alors on va plonger cette semaine dans l'Ancien Testament, mais vous allez l'entendre, le style est incroyablement poétique, d'une sensualité assez troublante qui convoque tous les sens en 5 poèmes. Le bien-aimé, la bien-aimée chante la beauté de l'autre, son parfum, le comparant aux plantes, aux fruits, aux pierres précieuses, aux montagnes du Liban, du Carmel. Voilà, on va voyager avec vous, Sylvain Gasser. Ce texte, c'est le Cantique des Cantiques. Où se trouve-t-il et que vient-il nous raconter ?
Alors, il se trouve dans l'Ancien Testament, la Première Alliance, donc. Il se trouve dans les écrits de sagesse, comme Job, Coélète, par exemple. Et c'est effectivement un poème, le seul de cette teneur-là qu'on a dans la Bible. C'est un très long poème, même s'il est court en termes de pages par rapport à d'autres livres. Mais c'est un très long poème de 117 versets, avec beaucoup de mots très précis qu'on ne trouve que dans ce livre, avec une sorte de richesse, de profusion d'images, d'odeurs, de senteurs, de visions. Enfin, on transpire. Et ça tombe très bien, puisque c'est quand même, comme vous l'avez dit, le chant, le poème d'un homme qui cherche une femme, qui cherche un homme, qui cherche une femme, de deux bien-aimés, de deux amants, en fait, qui se cherchent et ne se trouvent pas.
Oui, profusion, abondance, c'est vraiment assez marquant. Alors, ce livre, il se trouve entre l'Ecclésiaste et le livre de la sagesse. Est-ce que cette position dans la Bible, est-ce que cette situation a un sens ?
On regroupe à cet endroit de la Bible tous les écrits dits de sagesse. Mais évidemment, ce ne sont pas les mêmes auteurs, ce ne sont pas les mêmes vues qui mobilisent justement tous les auteurs. On l'a mis dans ces écrits-là parce que ce n'est pas un écrit de loi, comme on le trouve dans les 5 premiers livres de la Bible. Ce n'est pas un livre de prière, comme les psaumes qu'on trouve juste avant. Ça fait vraiment partie de la littérature de la sagesse.
La sagesse, oui, c'est intéressant ce que vous dites. L'amour est une sagesse ?
Oui, enfin, l'amour nous permet d'entrer dans notre profonde humanité, et c'est dans cette humanité bien incarnée que nous devons chercher les ressorts d'une sagesse qui nous permet de comprendre le monde, d'avancer dans ce monde et de vivre ensemble surtout, évidemment.
Ce qui est marquant, et c'est pour ça qu'on est obligé de s'arrêter dessus en ce début d'émission, c'est que c'est un poème. Est-ce que c'est rare dans la Bible ? On sait que les psaumes, on les associe parfois à des poèmes, mais là, c'est véritablement une autre écriture.
Oui, c'est une toute autre écriture. Ce n'est pas une prière, mais on va retrouver la même intention qui est d'essayer de comprendre, se comprendre, les cris de l'homme, par la prière, par le cri, par la lamentation, par le poème, essayer de dire tout ce qui me traverse dans des textes qui donnent justement l'occasion de ne pas simplement faire une chronique historique, de ne pas simplement faire une analyse de soi, mais d'essayer avec les mots, donc avec la littérature, de dire quelque chose de soi dans sa recherche de Dieu.
Oui, il y a un véritable élan, et puis il y a aussi une véritable poésie, il y a même de l'érotisme, vous iriez jusque-là ?
Ah, mais tout à fait, c'est vraiment, les termes sont érotiques, certains dirait même qu'ils sont pornographiques, je ne dirais pas cela, mais ils sont vraiment érotiques, c'est-à-dire une immense sensualité, tout simplement pour faire comprendre la puissance du désir entre une bien-aimée et son bien-aimé.
Alors justement, vous dites entre une bien-aimée et son bien-aimé, est-ce que l'Église, est-ce que les exégètes ont tout de suite interprété, c'est pourtant écrit noir sur blanc, l'homme, la femme, le cœur, qui parle dans ce texte ? Pour autant, on trouve beaucoup d'interprétations de cet amour qui serait celui de Dieu pour son peuple, qui serait celui de Dieu pour Israël. Est-ce que ça a pris la place de l'homme et de la femme ? Est-ce que justement, par pudeur peut-être, on a choisi d'autres interprétations ?
Alors là, vous posez la grande question de savoir quelle lecture nous allons faire d'un tel texte. Mais on pourrait le dire de l'Évangile, on pourrait le dire de Coélète et de Job, et effectivement. C'est au départ effectivement un poème qui raconte la recherche d'une bien-aimée et de son bien-aimé. Mais très vite, quand on a décidé de mettre ce poème dans le corpus des Écritures, ben certains rabbins, notamment au 1er siècle, se sont posé beaucoup de questions. Que fait un tel livre dans la Bible ? Et donc, on a voulu soit l'enlever. Et c'est le rabbin Rabbi Akiva, au 1er siècle, qui a décrété que tous les livres de la Bible sont saints, mais le Cantique des Cantiques, c'est le saint des saints. Et donc, c'est une sorte d'autorité qui fait qu'on n'a plus osé enlever ce livre, très étonnant, c'est vrai, de la Bible. Mais heureusement, parce que c'est à travers ces mots qu'on va pouvoir faire une autre lecture. L'autre lecture, elle, c'est la lecture spirituelle, lecture allégorique, lecture spirituelle qui est de montrer que, à travers le désir d'un homme et d'une femme, c'est le désir de l'homme avec son Dieu. Et la lecture allégorique, c'est les épousailles du Christ et de l'Église. Ça, c'est quelque chose qu'on verra surgir beaucoup plus tard, évidemment. Et les Juifs aussi ont plusieurs lectures interprétatives. Mais au départ, c'est bien le poème d'un homme et d'une femme qui se cherchent et se désirent et ne se trouvent pas.
Voilà, on parle du livre, le Cantique des Cantiques aujourd'hui. Est-ce que c'est un chant sacré ou un chant profane? Parce qu'il n'est pas du tout question du Dieu en tant que tel. Le mot Dieu n'est pas du tout utilisé dans ce texte. On parle de l'homme, on parle de la femme, on parle de la beauté, on parle de la nature. Alors, est-ce qu'on pourrait presque aller jusqu'à dire que c'est un texte profane?
Alors, c'est toute la question de savoir qu'est-ce qu'on appelle profane et qu'est-ce qui devient sacré. Est-ce que la simple nomination de Dieu fait que le livre devient sacré? Ce n'est pas sûr. C'est plutôt les élans, les sentiments, le récit, le scénario, comme on dirait aujourd'hui, qui nous permet d'approcher par cette manière-là très singulière, notre relation avec Dieu. En fait, le génie juif des scribes a été de prendre tous les genres littéraires qu'ils avaient à leur disposition pour raconter leur relation avec Dieu. Il y a des épopées historiques, c'est le livre de Josué.
Dans l'Ancien Testament,
oui. Dans l'Ancien Testament, oui. Il y a des mythes, c'est le livre de la Genèse. Il y a des récits historiques, il y a des récits prophétiques. Il y a un livre de contes, mais contes financiers, donc c'est le livre des Nombres. Il y a un livre de lois, c'est le Lévitique. Vous avez un livre de prières, ce sont les psaumes. Et vous avez un poème, et c'est le Cantique des Cantiques. Donc il faut vraiment le prendre dans son unité. Pas forcément vouloir le mettre en lien avec d'autres livres, on peut le faire après coup, mais au départ, le lire comme vraiment une nouvelle littéraire tout à fait unique en son genre. Et c'est vrai qu'elle est vraiment unique parce qu'elle apparaît à peu près au 5e siècle avant Jésus-Christ, à peu près à ce moment-là que ce poème a dû être écrit. Et dans cette très haute antiquité, c'est la première fois qu'on voit apparaître un homme et une femme qui sont presque nommés, qui existent en tant que tels et non pas des dieux pour raconter leurs amours. On n'avait jamais cela auparavant.
Parfois, on dit que l'auteur du livre, parmi les nombreux livres que l'on trouve dans l'Ancien Testament, ce n'est pas forcément ce qui est important, ce qui compte, ça va être ce qui nous est raconté. Je trouve que pour ce texte, le Cantique des Cantiques, on a envie de savoir qui l'a écrit. Est-ce qu'on a la réponse?
Alors, on dit que c'est, la tradition dit que c'est Salomon, le roi Salomon, très sage, très puissant. Mais le roi Salomon a vécu autour des années 915-920. Or, le texte, on pense plutôt qu'il a été écrit au 5e siècle, mais c'est toujours pareil. À cause de l'immense aura de la sagesse de Salomon, on a voulu placer sous l'autorité de Salomon ce magnifique poème. Et donc, ce n'est pas Salomon qui l'a écrit. On ne sait pas qui l'a écrit, comme tous les écrits bibliques. C'est quasiment jusqu'au 10e siècle, dans la littérature, y compris occidentale, vous avez très peu d'auteurs qui apparaissent. Les noms apparaissent vraiment tardivement, vers le 9e, 10e siècle. Donc, c'est une œuvre d'un grand poète, d'un poète sans doute qui a écouté tous les voyageurs juifs qui faisaient du commerce notamment avec l'Arabie du Sud et l'Inde. Parce qu'il y a eu un âge d'or d'échange entre le monde juif, le monde arabe et l'Inde, notamment pour les épices. Et donc ceux qui partaient là-bas avaient découvert la puissance et la richesse des temples hindous. Et il y a un récit, la Gita Govinda, qui justement raconte aussi l'histoire de deux dieux, Krishna et Radha. Et ce sont deux jeunes dieux qui finalement vont se chercher, se désirer dans leur quête du divin. Donc en fait, ils ont très certainement entendu cela et les influences indiennes sont très puissantes dans le Cantique des Cantiques.
Est-ce que c'est un poème, frère Sylvain Gasser, qui a gêné à certaines époques? Est-ce que c'est un poème qu'on a cherché à cacher? Est-ce que le Cantique des Cantiques a pu provoquer un certain malaise?
Forcément. Pour peu qu'on entre dans un âge très puritain, avec une morale qui voit la chair comme quelque chose de mal ou comme quelque chose de l'ordre du péché, évidemment, ce poème était non pas mal compris, mais était livré à une interprétation, finalement, qui obligeait les personnes à faire beaucoup de contorsions pour donner, comme trouver un sens profond à ce texte. De fait, on avait beaucoup de mal à reprendre les termes qui transpirent, donc, de ces termes très érotiques de l'amour de l'homme et de la femme, mais on n'a jamais enlevé le texte de la Bible, puisque, comme je vous l'avais dit, le rabbi Akiva au 1er siècle avait décidé, une fois pour toutes, que ce texte resterait dans le corpus des Écritures.
Alors on va écouter un extrait de ce cantique des cantiques. C'est un extrait qui nous est lu par le comédien Noam Morgenstern. Il est pensionnaire de la Comédie Française et nous écoutons le chapitre 1.
Poème des poèmes de Salomon.
Des baisers. Oh, des baisers de sa bouche. C'est très bon tes amours de toi, mieux que le vin. Comme odeur, tes parfums sont si bons. Un parfum s'impose. Ah, c'est ton nom. Voilà pourquoi les jeunes filles t'aiment. Emmène-moi, allez, courons après toi. Le roi m'a fait entrer dans ses chambres. Joie pour nous, joie par toi. En mémoire, tes amours mieux que le vin. On a bien raison de t'aimer. Fille de Jérusalem, je suis noire et magnifique. Comme les tentes de Kédar, comme les tentures de Salomon. Mais ne me voyez pas si noir. C'est lui qui m'a bruni, c'est le soleil. Les fils de ma mère en colère contre moi, ils m'ont faite gardienne de vigne. Mais ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Raconte où est le pré, toi que j'aime, moi. Là où tu emmènes les bêtes, comment tu les fais reposer à midi? Je ne serai plus perdu au milieu des troupeaux de tes amis.
Si tu ne le sais pas, toi la plus belle des femmes, allez, sors à la poursuite du petit bétail, emmène auprès tes petites chèvres. Tout près des maisons des bergers.
Mon ami, je te compare. Une jument entre les chars du pharaon. Tes joues sont jolies entre les colliers. Et ton cou entre les perles. Nous te ferons des colliers d'or constellés d'argent.
Le roi est au milieu de sa cour. Et là, mon parfum de nard donne son odeur. Un petit bouquet de myrrhe, c'est mon amour à moi. Il passe la nuit entre mes seins. Une grappe de henné, c'est mon amour à moi dans les vignes. À En-Gedi.
Te voilà si belle. Mon ami, te voilà si belle. Tes yeux, oh, des colombes.
Te voilà si beau, mon amour, si gracieux. Notre lit si frais. Les poutres de nos maisons sont des cèdres. Nos lambris, des cyprès.
Voilà, on entendait Sylvain Gasser cet extrait du chapitre 1, lu par le comédien Noam Morgenstern. C'est un travail qui est réalisé par Bayard. C'est le choix d'une certaine lecture et d'un certain ton. On l'entend assez sensuel.
Oui, et vous pouvez imaginer que les comédiens sont très heureux d'avoir un tel texte pour l'interpréter. Noam Morgenstern ici interprète le texte comme un musicien interpréterait sa partition, et c'est justement pour nous le rendre encore plus sensuel, plus charnel, plus proche de notre humanité. Je ne dis pas que d'autres textes sont lus avec une plus grande distance, mais je pense qu'il faut vraiment honorer cette part littéraire de la culture biblique. Déjà pour que les textes ressortent, pour qu'on puisse apprécier la puissance, le génie propre de chacun de ces textes. Et ensuite, évidemment, quand on est dans une liturgie, on va lire avec un autre ton, parce qu'on n'est pas dans au même endroit, avec le même public et la même intention, c'est évident. Mais aujourd'hui, nous savourons le plaisir d'entendre ce poème, lu vraiment avec beaucoup de sensualité, comme vous l'avez dit. Mais justement, c'est pour honorer encore plus le choix admirable des mots qui ont été utilisés.
Oui, beaucoup de relief aussi dans cette voix. Alors, qui sont les personnages en présence? On entend d'ailleurs, c'est rendu par les différents éléments sonores, mais qui est présent dans ce texte?
Alors ça, c'est très compliqué. Il y a bien sûr d'abord une bien-aimée. Et puis il y a son amant, un homme et une femme. Mais à un moment donné, dans le texte, on va voir surgir le roi Salomon. Puis on verra d'autres voix. Et enfin, on aura aussi les soldats qui apparaîtront. Donc on se demande, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? C'est vrai que c'est très difficile, lors d'une première lecture, de savoir qui parle exactement. Là, dans le texte que nous avons entendu, on voit bien ma bien-aimée, mon bien-aimé. On voit bien que c'est, on est dans un dialogue. Mais après, ça va se compliquer. Alors, pourquoi y a-t-il tous ces personnages? De fait, on dit que le roi Salomon avait une sagesse immense. Il savait tout sur tout, sur les secrets de l'âme, de la sagesse. Mais il y avait une chose qui lui résistait, un mystère qu'il ne parvenait pas à décrypter, c'était l'amour. D'où vient l'amour? Pourquoi j'aime? Quel est le secret de l'amour? Et donc, on peut imaginer qu'il a voulu mettre, et là c'est moi qui brode, mais c'est comme ça aussi qu'on peut comprendre le texte, il a voulu simplement mettre en scène cette recherche de l'amour à travers une fille de son harem, qu'on appelle la Sulamite, qui est cette femme noire, noire et magnifique, comme le dit la traduction, et puis un petit berger. Et il les laisse partir, il veut voir ce que ça va donner. Et à un moment donné, il va arriver sur scène en disant « Mais maintenant, toi la Sulamite, dis-moi ton secret, toi qui sais aimer, toi qui donnes tout pour ton amant, dis-moi quel est le secret de ton amour, donne-moi ton amour. » Et en fait, elle lui dira « Mais mon amour n'est pas à toi. » Mon amour est pour quelqu'un d'autre que toi. Donc en fait, elle ne lui donne pas de réponse, mais elle le renvoie à lui-même. Mmh. Et donc, Salomon entre sur scène, puis il s'écarte et le poème continue. Donc c'est ça qui est très compliqué. On devrait quasiment le théâtraliser, le jouer pour comprendre ce qui se passe dans ce poème.
Ouais. En tout cas, ce qu'on perçoit, c'est la dimension aussi naturaliste, on pourrait presque dire, cette description des chèvres, des troupeaux. On y est, c'est très imagé. Bon, c'est aussi le rôle de la poésie, mais c'est vrai que là, c'est particulièrement touchant.
Alors, c'est évidemment les plantes, les animaux d'un jardin magnifique, d'une oasis, évidemment. N'oubliez pas qu'on est dans ces pays très chauds où l'eau est rare. Et dès qu'il y a de l'eau, il y a automatiquement une oasis. Et c'est tout de suite une sorte de paradis dans un univers très chaud.
Aujourd'hui encore, à Enguedi, il y a ces cascades.
Oui, alors, c'est là, il y a deux occurrences dans la Bible de cette magnifique cascade qui se trouve à la limite du désert de Judée, tout près de la mer Morte. Et c'est magnifique. Vous montez un petit chemin, un peu pentu, puis vous avez une immense cascade qui, même en temps de sécheresse, continue de couler. Donc c'est vraiment quelque chose d'admirable. Et donc, dans cette oasis naturelle, on a voulu placer l'histoire du Cantique des Cantiques. Tout simplement parce qu'il y a des animaux, il y a des plantes, c'est luxuriant. Et cela contribue encore à mettre en avant et en relief la puissance de l'amour.
Alors, vous nous disiez que Salomon cherche à comprendre ce qu'est l'amour et qu'en réponse, il est renvoyé vers lui-même aussi, ce qu'il est prêt à donner et ce qu'il est prêt à vivre. Comment est-ce qu'on comprend l'amour finalement? Quelle est la réponse qui est donnée sur ce qu'est l'amour?
Eh bien, l'amour, c'est une énigme, comme le mal, le malheur, la souffrance ou la mort. Alors évidemment, ce ne sont pas les mêmes enjeux. Ce sont des énigmes. Mmh. C'est des énigmes qui nous font chercher, qui nous oblige à comprendre ce qui se passe, et nous n'y parvenons pas, c'est le propre d'une énigme de n'avoir pas de réponse. Donc en fait, prenons l'exemple du mal. Quelle est l'origine du mal? Pourquoi le mal? Personne n'a de réponse. Le livre de Job l'a mis lui aussi en scène à travers une sorte de conte philosophique. Et donc cette question de l'énigme fait qu'il nous faut éviter de souiller la question par la réponse. Je pense qu'il faut vraiment respecter cette puissance énigmatique que représente l'amour. Dès qu'on est capable d'aimer et d'être aimé, on n'est plus le même homme, plus la même femme, on est complètement différent, on est transfiguré, on est métamorphosé. Pourquoi? Eh bien, moi, je n'en sais rien. Et je défie sans doute quiconque de dire pourquoi on est transfiguré. En revanche, ça fait parler, ça fait causer, ça fait écrire. Et c'est ça que nous recevons à travers ce poème des poèmes. C'est justement d'essayer de mettre en scène l'amour pour que nous ayons une manière d'appréhender tous les ressorts de ce qui fait de nous une nouvelle personne à partir du moment où j'éprouve un sentiment très puissant et très profond qui sort de moi, qui va vers quelqu'un et dont j'attends, c'est vrai, assez vite, la réponse parallèle.
La Bible qui reste un lieu de mystère et d'énigme, c'est intéressant qu'on n'ait pas cherché justement à donner les clés, à donner des réponses comme aujourd'hui, peut-être on se sent un peu matraqué par des réponses.
Oui, c'est vrai.
C'est vrai que ce livre reste un lieu de mystère. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que c'est un livre qui est aussi un lieu de mystique, le Cantique des
Cantiques? Oui, on en fera une telle lecture parce que si on n'a pas de réponse à l'énigme de l'amour, on a quand même quelque chose qu'on met en exergue dans ce poème, c'est que à travers cette recherche des deux amants, qui butinent finalement comme deux abeilles autour d'une fleur, mais ne se touchent pas, ne se voient pas, se voient au loin simplement, mais ne sont pas ensemble, il est mis en avant le thème du désir et du manque. C'est le manque, ce beau rien qui m'empêche de me suffire déjà, ça c'est vrai, et qui me fait aller vers l'autre. Et c'est simplement ce mouvement de sortie de soi qui est mis en avant dans ce poème. C'est très théâtral, ça c'est vrai. Et je pense que ce désir, on pourra le rendre mystique dans une autre lecture. Le désir de l'homme vis-à-vis de son Dieu, le désir du Christ et de l'Église. Enfin, toutes ces lectures supplémentaires qu'on fera par la suite partent toutes du désir. Et souvent, je dis à des personnes, quand elles me disent « Mais moi, je ne sais pas si je crois, je crois que je ne crois plus », enfin bref, je dis « Mais enlève le mot « foi », enlève le mot « croire » et mets le mot « aimer ». C'est le même mouvement. Est-ce que tu as foi en Dieu ? Je ne sais pas. Est-ce que tu aimes Dieu ? Ben, je voudrais. Et donc, tout de suite, ça change les perspectives. Aimer, ce n'est pas savoir tout de la personne. C'est oser prendre un risque. René Char disait « Comment avancer sans inconnu devant soi ?» Eh bien, c'est un peu ce qui aimante ces deux aimants. Ces deux amants.
L'amour, vous avez dit, il est difficile à définir. Et de fait, c'est aussi ce qu'on trouve dans ce texte, c'est beaucoup de comparaisons. Alors, comment nous est décrit l'amour dans ce texte ?
C'est plutôt les corps qui sont décrits. C'est le corps de la femme, le corps de l'homme, à travers des images qui peuvent nous paraître étonnantes. Par exemple, les seins de la femme, on dira que ce sont des faons, des vignes et des gazelles. Pourquoi, je n'en sais rien, mais on va laisser finalement cette image à son auteur. On parlera pour l'homme de grappes, de hennées. Donc c'est très étonnant de voir des images qui ne sont pas tout à fait habituelles pour nous. Mais c'est pas grave. Ces images, d'un coup, elles nous font partir, elles nous font voyager dans le temps, dans l'espace. Elles nous font goûter justement cette écriture très ancienne. N'oublie pas que ça a presque 26 siècles, ce texte. C'est énorme, c'est énorme.
Alors je vous propose qu'on réécoute un deuxième extrait. C'est le chapitre 2. Et on va écouter les versets 1 à 10.
Moi, je suis la rose du Charonne. Le lys des vallées.
Comme un lys entre les ronces, voilà mon ami, entre les filles.
Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, voilà mon amour entre les fils. J'avais envie de son ombre. Oh, m'asseoir, son fruit si doux à mon palais. Il m'a fait entrer dans la maison du vin. Il y a une enseigne au-dessus de moi. C'est amour. Redonnez-moi des forces. Oui, des gâteaux de raisin. Encore des forces avec des pommes. Oui, je suis malade d'amour.
Oui, malade d'amour, ça pour le coup, vous disiez que ça a traversé 26 siècles, on a le sentiment que
c'est écrit aujourd'hui. En tout cas, ça raconte toujours cette histoire recommencée, sans cesse recommencée, de nos amours, de notre attrait pour l'autre, de manière très singulière, c'est vrai. Et je pense que tous les poètes qui ont suivi, ils sont nombreux à parler d'amour. Je pense notamment à la Renaissance, à Ronsard, enfin, on a de très beaux textes. Mais finalement, tout le monde a essayé, à travers des mots, de cerner cette énigme que représente l'amour. Mais on a ici, dans le Cantique des Cantiques, cette particularité de rester très attaché à la chair, au corps lui-même, ce qui est tout à fait exceptionnel. Et cette notion de chair trouve un rebondissement quand le Dieu deviendra celui de Jésus-Christ, qui s'est lui-même incarné dans notre propre chair. Et c'est là qu'on peut commencer à faire déjà une nouvelle lecture plus spirituelle.
Sylvain Gasser, est-ce que ce livre, Le Cantique des Cantiques, a inspiré des écrivains par la suite ? Des peintres, on sait, avec Chagall, mais des écrivains ?
Il a inspiré, alors j'ai pas d'exemple en tête, mais il a inspiré beaucoup de musiciens. Et notamment les chanteurs, je pense à Bachung par exemple, qui avait enregistré l'intégralité de ce cantique avec sa voix grave qu'on lui connaît. C'était très sensuel, c'était puissant, et il ne pouvait pas faire autrement que de le chanter. Je pense que quand on commence à lire à haute voix ce texte, on a déjà la musique qui vient. Assez naturellement, on va l'interpréter en le chantant. Alors, il ne s'agit pas de le chanter en bel canto, il s'agit simplement d'avoir un port de voix qui met en avant les mots, comme le fait très bien, évidemment, Noam Morgenstern. Mmh.
Est-ce que ce texte, vous diriez, c'est un texte de noces ? On n'entend pas que ça conduit au mariage, donc c'est une relation, c'est une tendresse.
Alors, c'est vrai qu'on l'entend parfois dans les mariages, et quand les couples que je prépare en mariage choisissent un extrait du Cantique des Cantiques, je leur dis attention. Ce texte raconte l'histoire d'une femme qui cherche un homme, qui cherche une femme, qui cherche un homme, qui ne se rencontrent pas, qui ne sont pas fiancés et qui ne se promettent rien. Et donc, il prône peut-être tout simplement des amours très libres. Mais en tout cas, oui, la liberté en amour, ça, je ne dirais pas le contraire. Mais donc, en fait, c'est pas parce qu'on a des termes très sensuels que c'est forcément ce qui doit le plus coller à ce qu'on appelle le mariage. Mais c'est pas grave, parce que pour le coup, on pourra parler de l'incarnation de notre relation dans le mariage, évidemment.
Oui, pour vous, il y a une interprétation qui peut être celle d'une fidélité aussi.
Évidemment.
Vous diriez qu'il y a ici véritablement une passion amoureuse. Est-ce qu'elle est conduite à durer ou est-ce qu'elle est plutôt celle justement d'une rencontre éphémère qui existe dans ces pages mais qui en fait n'est pas amenée à conduire à quelque chose de long, de durable, et c'est ce qui fait aussi sa fraîcheur finalement.
Oui, de fait, on n'en sait absolument rien. Le temps du poème, c'est le temps de cet amour ici décrit. Et le poème peut prendre plus que simplement le temps d'une lecture. Il peut devenir le temps de ma vie si je fais toute ma vie une vie de recherche, de désir, qui suppose reconnaître un manque, et à partir de ce manque de chercher, c'est le sens de la recherche de Dieu. La quête spirituelle et mystique, elle est là. Et on peut aussi la trouver entre deux êtres qui s'aiment. Je dis souvent, entre deux personnes qui s'aiment, je dis, chaque jour, votre amour, enfin, vous serez moins étrangers l'un à l'autre, mais chaque jour, vous serez plus inconnus. Et en fait, c'est ça qui crée toujours du désir, qui nous permet d'avancer. Chaque jour, moins étrangers, chaque jour, plus inconnus. Et donc, puisqu'il y a un inconnu, il y a une inconnue dans notre relation, ben, j'ai envie de savoir. Et donc, je cherche, qui es-tu ? Toi que j'aime, toi avec qui je vis, par exemple, dans le cadre d'un amour conjugal, qui es-tu ? Ce n'est pas parce qu'on est marié qu'on sait tout de l'autre, heureusement d'ailleurs. Et qu'est-ce que ça veut dire de tout connaître de l'autre ? Mais à un moment donné, on se rend compte que le compagnonnage fait que la personne avec qui je suis n'est pas forcément étrangère, elle l'est de moins en moins, mais quel est son mystère ? Et je pense que c'est ce mystère-là qui nous est donné à travers cette recherche des amants.
Sylvain Gasser, vous évoquez ces personnes qui choisissent ce texte pour leur mariage. Qu'est-ce qui, d'après vous, les surprend, les attire, leur plaît dans ce texte ?
Ben, comme ils sont jeunes fiancés, qu'ils sont pleins de dynamisme, pleins d'amour, ben, ils trouvent les échos de ce qu'ils sont en train de vivre. Ils se disent, ben, ça tombe plutôt bien. Surtout si on trouve dans la Bible. Et c'est un élan, ce sont des mots, c'est un plaisir charnel très puissant. Et ça permet d'ailleurs de dire que souvent on entend dire rapidement, et parce que c'est faux évidemment, que le Dieu de l'Ancien Testament est un Dieu vengeur, est un Dieu qui punit, est un Dieu cruel. Bon, ben si c'est ça, le Dieu qui nous permet de mettre en avant ces mots d'amour, ben je pense qu'on a un autre Dieu dans l'Ancien Testament. Parce que ce texte-là, il n'est pas dans le Nouveau Testament, il est bien dans l'Ancien.
Merci beaucoup frère Sylvain Gasser pour nous être arrêtés avec vous sur ce texte qui s'appelle le Cantique des Cantiques. Je rappelle que vous êtes frère assomptionniste, éditeur de podcast à la revue Prions en Église et notamment du podcast La Bible à l'oreille pour lequel vous avez travaillé. Merci à vous.
Merci Madeleine.